Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Comme vous le savez maintenant, nous sommes entrés en carême. Un marronnier, comme je le disais la semaine dernière, pour nous autres journalistes, soit un événement récurrent dont il faut pourtant trouver chaque année à parler à frais nouveaux. Pour nous aider à ne pas tomber dans une routine, et pire encore dans une routine spirituelle, nous avons choisi à Radio Présence, cette année encore, de faire à nouveau donc une série d'émissions Vivante Église spéciale carême. Une série avec frère Jean-Claude, franciscain, cofondateur de la communauté de l'agneau, cette communauté d'hommes et de femmes consacrées à Dieu dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, le thème de cette série d'émissions de carême, les béatitudes. Frère Jean-Claude, bonjour, rebonjour.
Oui, rebonjour Emmanuel.
Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission du lundi précédent, nous sommes donc dans l'Aude, dans des petites collines. Quelle est l'altitude maximum ici ?
Je crois que c'est un petit peu plus de 400 mètres sur les points les plus hauts.
Voilà, 400 mètres où se trouve, c'est quoi en fait ? C'est un peu la base arrière de la communauté, c'est ça ? Ou le lieu de noviciat ?
Oui, le lieu mère, le lieu de ressourcement, de... Voilà,
il y a un petit monastère ici de la communauté et puis des petits, sortes de petits ermitages aux quatre coins de ce grand terrain qui vous a été prêté ou donné, dans lequel vous vivez, en tout cas aujourd'hui vous résidez et vous nous accueillez. Voilà, on est dans une petite maison basse, au mur blanc et très dépouillé, il y a juste une icône du Christ dans la pièce ou presque, non un petit peu plus. Et vous faites l'amitié à Radio Présence de nous aider à entrer dans ces béatitudes. La deuxième béatitude, donc pour cette deuxième émission, je la cite d'entrée, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ». Alors, même question qu'à chaque fois, pour rappel un peu de la construction pédagogique de ces émissions. Première partie d'émission, vous nous aidez à rentrer dans cette béatitude. Ensuite, vous trouvez à l'illustrer par des exemples de vie de saints, des exemples qui concernent votre communauté ou vous-même, ou des gens que vous avez rencontrés qui, pour vous, incarnent d'une certaine manière cette béatitude. Et enfin, on finit l'émission avec quelques conseils spirituels pour nous-mêmes entrer dans cette béatitude. Comment vous présenteriez, frère Jean-Claude, cette deuxième grande béatitude ? Elles sont toutes grandes, mais voilà, quels seraient vos mots de présentation ?
Donc, bienheureux les doux, ils posséderont la terre en héritage. Alors, c'est très très proche de la première béatitude, hein, le royaume des cieux ou la terre en héritage, c'est la même chose, les pauvres et les doux, c'est très très connexe, c'est un petit peu comme une répétition de la première béatitude. Mais les doux, ce sont ceux qui ne sont pas violents. Or, le monde nous montre que la terre appartient aux violents. Je me souviens, un jour, j'étais dans la rue, hein, et boulevard Barbès à Paris.
Alors excusez-moi, je reprécise, parce que tout le monde n'a pas suivi l'émission précédente. Vous êtes donc franciscain, et vous avez, après de nombreuses années, obtenu de vos supérieurs d'aller vivre quelque temps à la rue. Voilà, c'était... Voilà.
Et je descendais la rue avec un frère. Et tout d'un coup, je vois un homme, un grand gaillard, qui fait le sac d'une femme. Et je crie « Au voleur !» Et mon frère, c'était tellement brusque que mon frère continuait de marcher devant moi. Et je vois venir vers moi un grand gaillard qui s'approche presque nez à nez et qui me crache un gros molar sur la joue. Et je réponds, hein, simplement d'un haussement d'épaule en disant « Mais je ne pouvais pas faire autrement !» Et puis ça s'arrête là. Et mon frère revient et me dit, mais tu sais, tu t'es ceinturé par quatre gaillards, si tu avais branché, si tu avais dit quelque chose de provoquant, tu t'arrivais un mauvais sort. Et alors cette violence dans la rue, ça m'impressionne beaucoup. Ah bon ? On est tout le temps, oui, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et on le voit, alors, aujourd'hui encore, d'une manière très impressionnante. Et les doux, je répète, ce sont ceux qui ne sont pas violents, qui ont au fond de leur cœur la douceur de Dieu, parce qu'ils se savent entièrement protégés par lui. Ils peuvent affronter la violence je crois, sans peur. Et on le retrouve tout au long de l'histoire, des hommes qui vont sans peur vers leurs ennemis. Je pense ici à une...
Vous citiez Gandhi dans la première émission. Est-ce que ça peut être aussi un personnage qui nous aide à rentrer dans cette béatitude ?
Certainement, puisque c'est l'apôtre, on peut le dire, l'apôtre des temps modernes, de la non-violence. Et son combat contre l'Empire britannique en son temps a été quand même très très intéressant à comprendre, puisque dans la marche du sel, il a fait marcher des hommes qui se sont fait matraquer les uns et les autres par des policiers ou des soldats britanniques. Et à la fin, ce sont les soldats qui ont cédé. Mais quand je raconte cette histoire, j'ai toujours aussi le sentiment que ces soldats n'étaient pas si fanatiques que cela. Parce qu'on a vu tant de fois la force brutale broyer complètement les faibles. Alors, le doux est celui qui entre dans cette société archi-violente et qui reste dans la bonté. Un exemple de Jean Gosse, en camp de concentration chez les nazis. Tous les matins, dans la baraque, dans le baraquement où ils logeaient peut-être une cinquantaine ou plus, un sbire passait, désignait absolument au hasard un homme, l'obligeait à se mettre à genoux devant lui et le matraquait violemment. Et un jour, Jean Gosse, quand il l'a vu entrer, alors que tout le monde se cachait sous ses couvertures, il est descendu. Il s'est présenté devant cet homme et il lui a dit « Si ta conscience te l'ordonne, frappe-moi. » Et cet homme s'est mis à frapper furieusement le sol. Et ils ne l'ont jamais revu après. Et cette histoire m'impressionne énormément parce que c'est la douceur extrême de cet homme qui a désarmé la violence du violent. Et pareil, je me suis fait raconter cette histoire il n'y a pas longtemps, que son père, lui, avait une histoire semblable. Pendant la guerre, je crois qu'il est autrichien, hein, pendant la guerre, les troupes rentrent, tout le monde se terre, ferme les portes, ferme les volets, se calfeutre. Et lui, au contraire, il laisse sa porte grande ouverte et il a disposé sur la table de la nourriture, du vin, et voilà. Et au moment où les soldats rentrent, il leur dit « Vous êtes mes hôtes, ma femme et mes enfants sont dans la cave, mais vous êtes mes hôtes. » Et ils ont partagé ce qui leur proposait. Quand je raconte cette histoire, je me dis « Mais est-ce possible? Est-ce vrai ?» Mais elle m'a été racontée par quelqu'un de fort crédible, et j'ai cru. Vraiment, la douceur, c'est du Gandhi, hein, la douceur désarmant la violence du violent.
Alors, même question que pour la première émission, y a-t-il des éléments préparatoires dans l'Ancien Testament qui préparent à la compréhension de cette béatitude? Et si oui, lesquels?
C'est un thème que l'on retrouve de manière récurrente quand on chante les psaumes. Je sais bien que je chante les psaumes souvent avec beaucoup de routine, mais il y a quelque temps, j'avais une dizaine de jours devant moi, et j'ai écouté les psaumes en vitesse lente et en regardant le jour se lever et en essayant précisément, comme c'était la vitesse lente, de chevaucher le texte, de pénétrer dedans. Et alors, la béatitude des pauvres, elle est comme une espèce de toile de fond du psautier. Oui, qui est cet homme qui prie, qui crie vers Dieu, qui le loue, qui est heureux, qui est malheureux, qui crie ses indignations, qui appelle à la vengeance, qui c'est? Ben finalement, c'est un homme au cœur doux. Et alors, quel est l'homme au cœur doux? Mais c'est Jésus. Et Jésus le dit d'une manière très très formelle, hein. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez repos pour vos âmes. Et cette phrase, elle m'a toujours beaucoup séduit. Mais que dit-elle? Que Jésus est le doux par excellence. En lui, pas la moindre violence. Quand Saint-Pierre dégaine son épée pour empêcher l'arrestation de Jésus, et tranche maladroitement, parce que je pense qu'il visait autre chose, l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre, Jésus l'arrête. « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée mon père, ne la boirai-je pas ?» Et d'un geste, il guérit l'oreille de Malchus. Et ceci n'empêche pas les violents de continuer leur route. Mais voilà, Jésus est vraiment le doux par excellence. Il le déclare, hein, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. »
Alors, est-ce que cette douceur, puisque Jésus incarne chacune des béatitudes, hein, c'est ce que disait entre autres le pape François, je l'avais cité dans la première émission à l'occasion du message pour les Journées mondiales de la jeunesse 2014. Est-ce une révolution complète par rapport à l'Ancien Testament? Vous nous avez juste parlé en fait des psaumes. Ou est-ce qu'il y a des éléments préparatoires? Alors à vous entendre, c'est l'élément préparatoire, ça serait en fait le psalmiste et tout le peuple d'Israël qui serait appelé à rentrer dans cette douceur du psalmiste. Mais souvent, on dit donc le Nouveau Testament est à la fois l'accomplissement et en même temps une révolution. Alors où est l'accomplissement et où est la révolution là?
Jésus le dit très clairement, hein. C'est très, très, très impressionnant. Hein. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi ancienne. Et quand on fait une opposition entre loi ancienne et la loi de Jésus, quand on fait cette opposition entre loi ancienne et loi de Jésus, on est en contradiction avec l'ensemble de l'Écriture. Jésus est juif, juif, juif. Pour moi, il n'y a aucun doute. Et en même temps, il est homme, 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 complètement universel. Le royaume de Dieu s'étend, non pas, ce n'est pas un royaume national, mais il s'étend d'une mer à l'autre. Alors, dans la conception ancienne, la terre, on la considérait comme entourée par la mer. Et dire que le royaume de Dieu s'étend d'une mer à l'autre, ça veut dire que c'est la totalité de la terre qui devient le royaume de Dieu. Ce n'est pas du tout un royaume national qui va devoir se battre pour exister contre les autres royaumes nationaux qui l'entourent. Non, le royaume de Dieu est immédiatement universel. Alors voilà comment je sens la chose.
Mais le psalmiste, en l'occurrence, il peut donner l'impression, quand on lit les psaumes, qu'il y a une forme d'invocation d'un Dieu qui serait violent, ou lui-même, en fait, il prend son plaisir. Le mot est probablement très très mal choisi, mais il y a des choses violentes dans les psaumes. Donc on imagine que Jésus vient dépasser cela, c'est ça ?
Tout à fait. On a ce verset dans le psaume 136, je crois. « Bienheureux qui prendra tes petits... » Au Babylone l'a dévasté, bienheureux qui te dévastera, bienheureux qui prendra tes petits pour le briser contre le roc. C'est sûr qu'on ne peut pas lire ça sans un frémissement, mais on sait qu'une telle phrase aboutit avec Jésus à aimer vos ennemis. Et je n'ai pas du tout envie, moi, de sauter cette phrase, pour la bonne raison que je la sens au-dedans de moi. Et j'ai toujours été désolé de voir ce qui faisait une Bible. Tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je crois au contraire que la Bible pompe tout l'humus humain tel qu'il est. Bien sûr, il pompe la violence. Bien sûr, il pompe les atrocités. Il y en a énormément dans la Bible. Mais bien sûr, la torture, une guerre sans merci. Bon. Et alors, cette phrase, je l'entends non pas pour accuser quelqu'un d'autre, mais pour découvrir des mécanismes très profonds en moi, peut-être les mécanismes du crocodile et du reptile qui sont dans mon histoire passée et qui sont là toujours prêts à surgir et à m'engloutir dans leur violence. Je crois que chacun d'entre nous doit faire un effort pour saisir cette part de lui-même.
Alors, frère Jean-Claude, avant de faire une première pause, comme la fois dernière, on peut le comprendre au fil de votre propos, mais si vous deviez réinsister ou le dire ou le résumer, pourquoi, à votre avis, il y a une urgence profonde aujourd'hui à rentrer dans cette béatitude ?
Les événements du siècle passé avec les deux grandes guerres, à 30 ans, moins de 30 ans d'écart, deux guerres mondiales, dans les pays chrétiens, il faut le dire, hein, dans les pays chrétiens, mais où les hommes s'opposaient au christianisme, il faut le dire aussi. Hein, il y a eu beaucoup de prêtres catholiques dans les camps de concentration, beaucoup. Et c'était dans la société chrétienne le surgissement d'une mentalité antichrétienne et qui, à mon sens, va plutôt en se développant aujourd'hui. Je crois qu'il faut bien prendre conscience de cela. Alors, répète ta question, pardonne-moi.
Ma question, c'était quelle est l'urgence aujourd'hui de cette deuxième béatitude ?
L'urgence, elle est là. C'est qu'on a plutôt l'impression de voir la violence s'accroître. Je vois un détail, par exemple. Mais dans les guerres, dans les dernières guerres, on s'enfourchait à la baïonnette. Hein, et je me rappelle cette histoire tellement saisissante, racontée par un frère, un soldat allemand et un soldat français s'embrochent tous les deux. Et ils tombent côte à côte et nez à nez, leurs entrailles transpercées, perdant leur sang et mourant. Et ils se regardent et ils se reconnaissent. Ils reconnaissent le désastre dans lequel on les a mis. Mais qui les a mis dans ce désastre ? La violence des violents. Eux, on les a envoyés se battre, ils se sont battus. De toute façon, quand on se fait tirer dessus, on réplique. Hein, ça. Alors là, j'ai fait la guerre de l'Algérie, je sais ce que ça veut dire. J'étais 14 mois en Algérie, mais ça m'a énormément marqué, évidemment. Donc, pourquoi c'est urgent ? Parce que la violence va en croissant. Et Jésus nous en a averti dès le début. Il nous a dit que l'ivraie croîtrait au milieu du bon grain et qu'il ne faut pas entendre arracher l'ivraie maintenant. On ne peut pas empêcher la violence de se développer dans l'histoire humaine. Et ça, je le sens très très bien. Et ça, je crois que ça me donne une certaine paix, que je m'explique comme ça. Oui, il y a de la violence. Mais Jésus nous l'a annoncé. Il nous a annoncé une violence qui allait en se développant. Je le vois. Alors je me dis, Dieu a laissé beaucoup de marge au mal. Mais l'histoire n'échappe pas aux mains de Jésus. Pour moi, c'est une conviction. Alors l'urgence, elle est là, devant la violence qui grandit, que faut-il ? Une douceur qui grandit nécessairement. Et pour moi, il n'y a aucun doute, l'histoire que j'ai donnée de Jean Gosse et de son père, c'est tout à fait ça. Je suis sûr que la violence grandit, je suis sûr que dans le cœur d'une multitude d'humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur philosophie, athée ou pas, ça n'a pas d'importance, mais que dans le cœur de beaucoup d'hommes croît aussi la douceur, l'amour des ennemis, le respect de l'adversaire, la tendresse pour le meurtrier, dans l'exemple que je donne de ces deux soldats s'embrochant l'un l'autre en même temps. Voilà.
Merci beaucoup, frère Jean-Claude. On va faire une première pause et on vous retrouve tout de suite après pour continuer donc cette méditation sur cette deuxième béatitude.
See you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, deuxième émission de notre série de carême sur les béatitudes, avec pour rappel frère Jean-Claude, franciscain, cofondateur de la communauté de l'Agneau. Nous sommes un peu loin des studios de Toulouse, nous sommes dans l'Aude, dans des vallons, 400 mètres d'altitude, me disait Vieux tout à l'heure, où vivent une partie de la communauté. C'est un peu la maison mère et un lieu de retraite et un lieu de noviciat, si j'ai bien compris. La deuxième béatitude aujourd'hui dont nous parlons, c'est donc évidemment heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Même question qu'à chaque fois, par quelle vie illustreriez-vous cette béatitude ? Vous vouliez nous parler à nouveau de saint François d'Assise.
Oui, et dans la vie de saint François d'Assise, il y a un épisode qui me semble correspondre tout à fait à cela. Il a voulu partir à la croisade. Pas pour prendre les armes, mais pour rencontrer les ennemis et les convaincre, non pas par la force, mais par l'amitié et la douceur. Alors il est donc... Deux fois il a raté, hein, une fois par mer, la tempête l'a envoyé sur les côtes d'Almade, et puis une fois au Maroc, et il est tombé malade, en allant par l'Espagne, pardon, et il est tombé malade, et il a dû revenir.
Donc c'était au moment des croisades, et donc il faisait la démarche d'aller...
À la rencontre, au milieu des croisés, à la rencontre des musulmans, dans l'amitié. Et alors il arrive à Damiet, et il voit... Le triste état de la guerre, bon, il faut le dire, la convoitise des croisés, la violence des combats, l'imprudence des chefs, bon, beaucoup de choses tout à fait navrantes. Il en a le cœur déchiré. Et alors, il a profité d'une trêve avec l'intention de traverser les lignes et de rencontrer le Miramolin, comme on disait à l'époque, le sultan, avec le désir de recevoir le martyr. Ça me paraît aussi très important dans la vie de saint François, même si c'est très difficile à entendre aujourd'hui. Donc il va traverser les lignes et il rencontre le sultan de Damiette. Et là, il fait amitié avec le sultan. Il lui propose de lui dire la foi chrétienne. Alors l'histoire vue des chrétiens raconte que François, comme il rencontrait beaucoup de résistance à cette prédication, ben il dit « Allume un grand feu, et puis moi et tes prêtres nous passerons dedans, et la religion bonne sera celle de celui qui ne sera pas brûlé. » Évidemment, on comprend bien que les prêtres, devant une telle proposition, conseillent au sultan de ne pas faire l'essai. Et saint François propose de traverser seul, mais on ne veut pas non plus, évidemment. Si ça s'était vraiment fait, bon. Et puis, il se fait une vraie amitié entre François et le sultan. Et le sultan le renvoie en le comblant de cadeaux. Et on a encore à Assise quelques cadeaux faits par le sultan à cette occasion, dont un olifon, une espèce de grande corne ouvragée en ivoire, mais belle et richement ouvragée. Et alors cette histoire de François traversant les lignes de la violence au milieu de la guerre, profitant d'une trêve, hein, au milieu de la guerre, en sachant que la tête des chrétiens était mise à prix. Celui qui coupait une tête de chrétien et la ramenait, il recevait un besant d'or. D'où la fameuse expression avoir son pesant d'or, falloir son pesant d'or. Donc François savait tout cela, et avec un frère qui s'appelait Léon, et en traversant les lignes, il dit frère Léon, petite brebis de Dieu, Léon qui veut dire lion, hein. Frère Léon, petite brebis de Dieu, n'ayons pas peur, allons de l'avant.
Alors si vous permettez, je vais vous poser la question qui probablement se pose à un certain nombre d'auditeurs. Transposons la situation. Alors, vous allez me dire que c'est une question difficile, mais bon, chacun son métier, j'ai envie de dire, sans vouloir être évidemment désobligeant. Transposons la situation à aujourd'hui. Imaginons que un franciscain, comme ça, décide de franchir les lignes de Daesh, en tout cas récemment, pour aller à la rencontre du grand calife, dont le nom m'échappe, se disant que c'est une démarche nécessaire. Et imaginons qu'il soit reçu correctement comme Saint-François, etc. Est-ce que ce type de démarche est malgré tout généralisable à tout à chacun ? Est-ce que le devoir du chrétien, et c'est probablement la grande interrogation des chrétiens face à cette béatitude, c'est pas aussi un moment de faire en sorte que Daesh ne progresse pas ?
Oui. En tout cas, je sais qu'il y a un prêtre qui a traversé les lignes et est allé rencontrer Abou Bakr al-Baghdadi dans son nid d'aigle. Et les descriptions que j'ai entendues de cela, c'est très impressionnant. Ce genre d'histoire, on se demande toujours leur véridicité, leur authenticité. Mais je crois que c'est une histoire vraie pour moi. Cet homme est allé à la rencontre d'Abou Bakr al-Baghdadi, le maître de Daesh, pour parlementer avec lui. Et puis, je suis persuadé qu'à toutes les époques, dans toutes les nations, il y a des gens qui cherchent la voie de la diplomatie que tout le temps, l'Église recommande. En tout cas, dans la guerre qui a failli opposer le Chili et l'Argentine, c'est la diplomatie du Vatican qui a permis d'éviter la guerre et de régler le conflit de l'eau dans le sud des deux pays de manière pacifique. Je crois aussi qu'en Afrique, Sant'Egidio a mis un terme, ou plutôt a empêché un conflit entre deux pays d'Afrique, peut-être le Mozambique, mais je ne sais plus très bien. Donc cet esprit continue de travailler le cœur de beaucoup de gens. Et dans toutes les guerres, on sait qu'il y a des pacifistes, des pacifiques. Alors certains, on peut l'être pour mille raisons pacifistes, mais je suis sûr qu'il y a des gens d'un cœur droit et vraiment doux, qui savent que la douceur finit toujours par l'emporter. Et que les violents finissent toujours dans la violence. Et la parole de Jésus est très claire. Qui prend l'épée, périra par l'épée. Jésus n'a pas pris d'épée. Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Je crois que cet exemple-là est évidemment très difficile à suivre, mais il doit rester un appel pour tout le monde, même pour le père de famille qui doit défendre sa femme et ses enfants. Alors, ça pose une question très intéressante, parce que dans une société, tout le monde, comme dans une fourmilière ou dans une ruche, tout le monde n'a pas le même rôle. Et le rôle des religieux n'est pas du tout le rôle des gens engagés dans le monde. Alors, dans l'histoire de Saint François, c'est très intéressant, parce que au départ, il n'a pas voulu faire un ordre, mais il a voulu rassembler le peuple de Dieu autour de l'Évangile, autour de Jésus. Et donc il a rassemblé quelques disciples qui, dans les débuts, ont vécu d'une manière extrêmement pauvre. Et puis après ça, ça a eu un grand succès. Très rapidement, ils ont été près de 3000 frères, avec toutes les complications que ça soulevait. Et puis saint François n'était pas l'homme de cette situation-là. Et il s'est rendu compte à un certain moment que tout le monde ne pouvait pas être franciscain, toutes les femmes ne pouvaient pas être clarisses. Et alors les gens lui ont supplié, mais fais quelque chose aussi pour nous qui restons dans le monde. Et il a eu cette intuition du tiers-ordre, c'est-à-dire des gens qui sont dans le monde, mais qui vont vivre dans le monde avec les responsabilités du monde, celles de défendre leur patrie, celles de défendre leur famille, celles de protéger les leurs, mais avec l'esprit de l'Évangile. Alors je donne un exemple. Au Moyen-Âge, les tertiaires franciscains ne portaient pas d'armes. Ils pouvaient s'engager, dans l'armée, mais ils ne portaient pas d'armes, à une époque où cela était très courant. Et on voit très très bien, on sent très très bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de poussée qui va dans ce sens-là. Voilà. Mais je suis sûr aussi qu'il y a une quantité d'hommes qui sentent que la béatitude de la douceur, ils peuvent la vivre dans leur propre famille. On peut à tout moment se retenir d'une brutalité contre les siens. Parce que si on a le devoir de les protéger, on a aussi le devoir de ne pas les blesser, de ne pas leur faire du mal. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes, chrétiens et autres, qui, dans leur vie, savent retenir un accès de violence pour promouvoir l'esprit de douceur que Jésus montre par toute sa vie, que saint François nous a montré dans l'exemple du Miramolin, mais les exemples que je donnais aussi de Jean Gosse et de son père vont exactement dans ce même sens. Alors, je crois que chacun doit, premièrement, écouter l'appel de la douceur au fond de son cœur. Parce que...
Alors, si vous permettez, on va essayer de pas empiéter juste sur la dernière partie quand vous donnerez vos conseils spirituels.
Oui.
Comme il nous reste quelques minutes avant cette deuxième pause, vous vouliez entre autres parler de la communauté... dans la communauté de l'agneau, donc vous avez cette habitude d'aller mendier deux par deux votre nourriture, et vous vouliez nous dire à quel point cette démarche humble provoque en retour souvent de la douceur de la part des riches et des pauvres. Mais comme le temps file, je vous propose que vous passiez directement au dernier exemple que vous vouliez citer, qui est celui de votre père.
Ah oui.
Pour vous, c'est une figure qui incarnerait en grande partie, ou qui incarnait cette deuxième béatitude. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, voilà. Le dernier mot de mon père, que je considère comme le testament que j'ai reçu de lui, il était malade du cancer, ses affaires avaient mal marché et il était complètement ruiné. Nous étions cinq enfants, moi j'avais à ce moment-là 36 ans. Et je me suis approché de mon père, et après lui avoir donné la communion, cette phrase m'a échappé. « Papa, Dieu est bon. » Alors je rappelle, hein, le cancer, la ruine totale, tous les problèmes. « Dieu est bon. » Et j'entends mon père me répondre petit à petit, « Oui, Dieu est bon. Il n'y a pas de bonté pour répondre à cette bonté-là. Mais il faut toujours essayer. » Et puis, à cette époque, je me suis trouvé un petit peu auprès de mon père. J'étais vicaire à Roubaix. Je me trouvais auprès de mon père. Et j'ai vu quelqu'un qui sortait de sa chambre. Et il m'a dit, « Tu sais, cet homme qui vient de sortir, c'est un homme qui m'avait donné à la Gestapo pendant la guerre, la police secrète d'Hitler. » Et je n'ai échappé que parce que j'ai manqué le rendez-vous auquel je devais me rendre. Et juste avant de mourir, avant que mon père ne meure, cet homme est venu le voir. Et j'ai bien compris, dans la manière dont me parlait mon père, qu'il pardonnait entièrement à cet homme. Voilà, deux exemples de la vie de mon père qui me touchent beaucoup. Et puis, maman avait un caractère assez difficile, et mon père était toujours d'une douceur extrême. Et ma mère voulait être carmélite. Et quand les carmélites l'ont vu arriver, elles lui ont dit « Ce n'est même pas la peine d'essayer. Avec le tempérament et le caractère que vous avez, vous ne tiendrez pas dans la vie commune des carmélites enfermés dans un espace clos avec toujours les mêmes personnes. Il ne faut même pas essayer. » Et j'ai souvent pensé à ça. Et je me suis dit « Mais oui, ma mère, elle avait absolument besoin d'un homme très doux à côté d'elle, pour tempérer les pointes et les violences qui l'habitaient tout le temps. Ma mère envoyait des boulets de canon sans s'en rendre compte, en démolissant les gens. Et mon père bloquait tous ces boulets de canon avec gentillesse, et patience et consolante. Et je crois qu'ils ont gardé l'un pour l'autre un amour grandissant. Et même après la mort de mon père, j'étais frappé de voir l'influence que mon père a eue sur ma mère jusqu'à sa mort à elle. Voilà.
Merci beaucoup, frère Jean-Claude. On fait une deuxième pause et on vous retrouve après pour finir cette, clore en tout cas cette émission et commentaire de cette deuxième béatitude sur « Heureux les doux, ils posséderont la terre ».
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin donc sur les béatitudes, donc deuxième émission de notre série, pour rappel, pour ceux qui par hasard nous prendraient en cours de route, enregistrée depuis Plavilla, lieu maire de la communauté de l'Agneau. Nous sommes avec le frère Jean-Claude, franciscain et cofondateur de cette communauté. Dans cette dernière partie d'émission, comme maintenant le veut presque la tradition, quelques axes et conseils spirituels pour essayer de faire atterrir les deux premières parties jusque dans notre vie. Vous aviez un conseil que vous avez donné la fois dernière, mais que vous voulez répéter. Vous allez peut-être même le répéter à chaque émission. Allez-y.
Oui. C'est... Alors, je vois sur la fin de ma vie l'importance capitale pour un chrétien de lire, de connaître l'Évangile. Il n'y a pas d'autre moyen que de l'apprendre, de le répéter. Le pape Benoît, dès qu'il a été prêtre et qu'il devait annoncer l'Évangile, il avait pris la décision dès le lundi de méditer l'Évangile du dimanche et de ne prêcher que sur un texte qu'il savait pratiquement par cœur. Et moi, sans que personne me le demande, mais à l'époque où j'étais jeune prêtre, j'ai d'instinct fait cela. J'apprenais dès le lundi l'évangile sur lequel je devais prêcher le dimanche, de telle manière que de le répéter pendant les 8 jours pour pouvoir le dire, non pas comme une leçon que j'avais apprise, mais comme un jaillissement du cœur. Et je crois que les chrétiens, il faut qu'ils s'imprègnent de l'évangile pour que l'évangile puisse au bon moment sortir de leur cœur, dans leurs relations personnelles, privées ou publiques, peu importe. Mais prenez l'Évangile, mangez-le, comme on dit dans la communauté de l'Agneau. On pratique la manducation, c'est-à-dire qu'on répète l'Évangile. Prenez-le, faites en sorte qu'il descende profondément en vous. Et c'est lui qui ensuite, de lui-même, conduira vos réactions pour qu'elles soient, à l'exemple du Christ, des réactions chrétiennes.
Est-ce que vous auriez un exemple pour la béatitude qui nous concerne de l'exercice de cette douceur ? Vous vouliez nous citer un exemple d'actualité où cette douceur pouvait être utile et urgente ?
Je vois dans les lois éthiques où se met en place une grande violence de l'homme contre l'homme.
Donc les futures révisions de lois de bioéthique.
Oui, tout à fait. Et je me dis, il faut que la pensée chrétienne se rende présente. Parce que faisant une humanité meilleure, forte, eh bien oui, un trisomique qui va mener une vie malheureuse, pourquoi le faire naître ? Un enfant indésirable qui va embêter tout le monde, est-ce un enfant ? Alors, la pensée chrétienne affirme que l'enfant doit vivre depuis l'instant de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Voilà la pratique de la douceur évangélique. Mais ceux qui pensent qu'on peut éliminer des enfants gênants sont, dans une civilisation de violence et de la force est donnée au plus fort. Et celui qui a l'esprit de douceur interviendra toujours contre ces lois.
Alors vous invitez aussi à la douceur dans la manière de réagir.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
Ah oui, tout à fait. Je vois une chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a des groupes qui veulent protester contre ces lois et des groupes de chrétiens ou de catholiques qui vont prier autour des cliniques en tournant en rond autour des cliniques en disant le chapelet. Et je vois que plusieurs évêques ont recommandé de ne pas prendre cette pratique qui est quand même finalement une espèce de violence. Faites aux femmes qui, peut-être prises dans des circonstances effroyables, ne savent pas comment faire. Et ça m'a beaucoup touché que des évêques demandent de ne pas avoir cette pratique qui, justement, tout en ayant l'air très douce, est quand même une espèce de violence faite à autrui. Voilà, je pensais donner cet exemple.
Ensuite, pour finir, est-ce que vous auriez un ou deux exemples personnels, plus concrets, pour essayer de vivre ou d'entrer dans cette douceur au quotidien ?
Alors, évidemment, quand tu as dit ça, repenser à mon père. qui a été ruiné trois fois à plate couture. Et dans la première entreprise, une entreprise où il avait bien réussi, il était directeur général des ventes dans un gros laboratoire. Et là, on l'appelait le curé. Je pense à cause de cette espèce de bonté. Et il a été lourdé de la manière suivante. Un de ses concurrents demandait au secrétaire de lui transmettre les documents de mon père. Et il les présentait au patron avant mon père. C'est comme ça que mon père a perdu sa place. Et comme dans le cas de cet homme qu'il avait donné à la Gestapo, je n'ai jamais entendu mon père, jamais il n'a pensé que c'était bien. Ma mère était indignée, et d'ailleurs, curieusement, maman lui disait toujours « Méfie-toi d'un tel et d'un tel ». Mais mon père avançait avec confiance, et je n'ai jamais entendu maudire, ni faire un appel à la vengeance.
Mais alors là, si je me permets, vous reprenez un exemple que vous avez déjà cité précédemment.
Oui, oui.
Vous me disiez en préparant cette partie que ce qui est important, c'est pour les personnes peut-être... Enfin, ce que vous vouliez nous dire par là, c'est que pour les personnes qui seraient naturellement doux, comme l'était votre père, il ne faut pas perdre de vue la vertu de force. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?
Oui, tout à fait. Il y a dans l'Évangile un exemple très clair. Quand Jésus est giflé par un garde qui est là, ou un huissier qui est là, et qui lui dit « C'est comme ça que tu réponds au grand prêtre ?» et il le gifle. Et Jésus répond, c'est très très clair, « Si j'ai bien parlé, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et je crois que, pour moi, cet exemple de Jésus, il est très très clair par rapport à l'esprit de douceur. La douceur ne consiste pas à fermer les yeux devant l'injustice, mais quand elle s'adresse à nous, à la subir comme Jésus, et quand elle s'adresse aux autres, à rappeler le devoir de justice. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Et il stigmatise l'attitude de violence et d'injustice de celui qui lui a donné une gifle injuste. Mais après, il abandonnera son corps au bourreau. Mais en attendant, il rétablit la justice très clairement. Et ça, je crois que c'est... Alors, quand j'étais à Roubaix, j'avais dans une famille que je connaissais, que j'aimais beaucoup, des enfants très différents les uns des autres. Et je voyais bien qu'il y avait parmi eux un enfant dont la douceur naturelle allait faire le jeu de la moquerie des autres. Et alors, je lui ai beaucoup répété à ce garçon, il va avoir 10 ou 12 ans, je lui ai beaucoup répété l'exemple de Jésus. Mais regarde Jésus. Quand on l'a maltraité, il a d'abord rappelé le devoir de justice. Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Et toi, qui es doux par nature, demande la vertu de force pour être capable de ne pas glisser de la douceur à la lâcheté, de la douceur à un effacement injuste de toi-même. Demande la force pour être toi-même face à l'ennemi, même si tu dois prononcer la parole du pardon. Auparavant, tiens, et moi-même, je me suis très souvent trouvé au milieu de mes frères avec la peur au ventre, parce que je partageais pas du tout la pensée dominante. Donc, devant cette peur au ventre, j'ai toujours demandé, mais pas toujours avec succès, mais la vertu de force pour qu'une espèce de douceur ou bien de peur qui m'est naturelle ne m'entraîne pas dans une faiblesse et dans une lâcheté complètement irrecevable du point de vue de la justice, de la droiture et de la vérité. Mais je demande ça pour moi, et je pense que tous ceux qui ont un tempérament aussi, qui les enclins à céder le pas à un autre, s'assurent qu'en cédant le pas, ils pratiquent la charité et non pas la lâcheté. Alors il y a donc une connaissance de soi qui est indispensable, et quand on la connaît, demander la vertu qui correspond. Il faut que le doux demande la force, non pas la violence, mais la force pour devant le mal tenir et non pas lâcher. Bon, comme je l'ai hélas fait devant la torture en Algérie, non pas en la pratiquant, mais en n'osant pas parler à ceux qui se vantaient des tortures qu'ils pratiquaient. Plusieurs fois, je suis resté ahuri. Une des premières images que j'ai eues en Algérie, oui, si c'était un groupe d'hommes qui s'alignaient dans un petit remblai au-dessus d'un petit sentier et qui pissaient dans la soupe des prisonniers Fellaga. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais vous êtes fous. Alors là, j'ai eu un peu de courage, mais d'autres fois, je n'ai pas eu cette force. Et les copains m'ont répondu, mais Chupin, on respecte la mémoire de nos morts. Alors devant ces choses, où trouver le courage de réagir devant la violence d'autrui avec la fermeté et la douceur que Jésus nous impose?
Merci beaucoup, frère Jean-Claude, pour cette deuxième émission, pour cette série de carême. On vous retrouve lundi prochain, donc pour la troisième et peut-être la quatrième béatitude. Je ne sais pas comment vous organiserez votre propos. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.